RCF.
Quelle valeur l'Église accorde à la politique? C'est une question que vous vous êtes posée, Jacques-Benoît Raucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes frère dominicain. Vous vous intéressez à la doctrine sociale de l'Église pour essayer de comprendre ce qui traverse notre monde contemporain et notamment la question de la politique, du chrétien qui s'engage en politique ou qui s'engage ailleurs justement. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même implication? Et est-ce que ce seront les mêmes effets quand ce n'est pas dans un parti politique? En tout cas, est-ce que la politique ne détourne pas le chrétien d'un but qui serait plus haut? C'est la question que vous posez. Alors, la place de la politique pour un chrétien, c'est quoi?
Ce qui est bien, c'est que la réponse est claire, là. Non, la politique ne détourne pas le chrétien de ses engagements. Au contraire, le chrétien ne peut pas se désintéresser de la vie de la cité, de la vie de ceux et celles qui l'entourent. Et le pape Pie XI avait même cette belle expression. Il disait que pour le chrétien, la politique, c'est l'expression la plus élevée de la charité. Le service de la politique est l'expression le plus élevée de la charité. Pourquoi? Eh bien, parce que la politique permet de toucher le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de citoyens, et donc s'intéresser à la politique permet de faire du bien potentiellement au plus grand nombre. Donc,
mais est-ce que c'est une réalité?
Alors, en tout cas, c'est sa vocation à la politique et c'est ce qu'elle permet de faire. Donc, c'est quelque chose qui est beau et c'est une réalité vers laquelle elle doit tendre, on l'espère.
On entend aussi que, après tout, ce monde va vraiment de plus en plus mal. À quoi bon s'y engager? Et il y a une véritable déception face à ça. Vous dites que non, au contraire, faut y aller.
Il faut y aller. D'ailleurs, c'est le pape François qui le dit. Peut-être si ce monde va de plus en plus mal, si le monde politique a l'air d'être corrompu et que le chrétien n'a pas envie de s'y engager, il devrait peut-être se demander s'il est corrompu, c'est peut-être parce que les chrétiens n'y sont pas assez engagés. Donc on peut renverser l'argumentaire et se dire, au fond, c'est une invitation à y aller, justement.
Est-ce que vous soutenez qu'il y a un véritable pouvoir de la politique et que passer cet élan de vouloir changer les choses, changer le monde, il y a encore véritablement des lieux où c'est possible parce qu'on a une véritable envie de voir de belles choses, de pouvoir les réaliser?
Je crois que oui, et je crois que c'est même une expérience spirituelle forte que le chrétien peut faire quand il s'engage en politique ou quand il réfléchit à la question politique. S'engager en politique, c'est pas forcément militer dans un parti seulement.
Alors justement, qu'est-ce que ça peut être?
Alors d'abord, le fait de s'engager de façon générale, ça veut dire tout simplement se préoccuper de la vie de ses concitoyens. Donc ça peut commencer par aller voter, c'est quand même quelque chose déjà d'important. Ça peut être actif dans une association, être préoccupé, on va dire, du bien de ses concitoyens en menant une action ponctuelle ou plus large, on va dire, dans sa commune, dans sa région, dans son pays. Et puis ça peut être effectivement militer dans un parti politique ou une organisation syndicale.
Est-ce que le fait d'arriver dans des structures déjà établies, c'est pas trahir aussi un idéal qu'on pourrait avoir?
Oui, alors, moi je crois que le chrétien, il ne devrait pas fonctionner uniquement à l'idéal. Un chrétien, il a bien un idéal, mais c'est un idéal qu'il doit toujours incarner dans sa vie quotidienne et dans celle des autres. Et attention aux chrétiens qui ne voudraient se diriger, c'est vrai pour la vie politique, mais la vie en général, qui ne voudraient se diriger qu'avec un idéal. Au fond, le chrétien, il doit prendre en considération qui il est, sa capacité d'avancer aujourd'hui et d'avancer avec les autres. Moi, il y a une analogie que j'aime bien prendre, c'est celle du guide de montagne. Le guide de montagne qui ne vous montre qu'un sommet et qui vous dit « débrouille-toi pour l'atteindre », il fait pas son boulot. Le chrétien, c'est un peu pour ses concitoyens un guide de montagne. Il doit indiquer le sommet, il doit indiquer l'idéal, mais il doit aussi accompagner le chemin vers l'idéal, en prenant en compte le fait que ceux qui l'accompagnent sont peut-être pas en super forme, que la météo est peut-être pas optimale. Et il doit tenir compte de tout ça pour atteindre le sommet. Mais il doit pas se contenter de dire « regarde le sommet et débrouille-toi pour y aller ». Et parfois, on s'arrête à ce niveau-là, en disant « ah ben l'évangile nous dit ça, ou les papes nous disent ça, ça c'est le sommet, vas-y ». Donc, comment est-ce que concrètement je vais accompagner mes concitoyens dans les situations parfois poussiéreuses et pas très propres dans lesquelles ils sont pour, à la fin, atteindre cet idéal?
On a un discours un peu prégnant, un peu dans l'air du temps, de dire l'Église a besoin de forces vives, l'Église a besoin de ces fameux ouvriers pour la moisson. Comment vous l'entendez, ce discours?
Je crois que l'Église, ce dont elle a besoin, et parce que c'est sa mission, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui annoncent l'Évangile, et qui annoncent le message du Christ. Mais annoncer le message du Christ, c'est pas seulement travailler dans des structures d'Église, même pas du tout. C'est aussi être présent en entreprise, être présent dans la vie politique. Et le pape Jean-Paul II mettait un peu en garde les chrétiens, et aussi les responsables d'Église, contre ce genre d'attitude en disant « Attention, si les chrétiens les plus engagés ne travaillent que dans des structures d'église, on perd aussi une possibilité d'être au contact avec le monde et de porter un témoignage dans le monde politique, dans le monde économique. Donc attention de ne pas faire venir les chrétiens trop dans les structures d'église au point de les empêcher de s'engager dans le monde. »
Mais alors, comment garder sa foi aussi dans des lieux qui lui sont hostiles ?
Ben, je crois que c'est toujours évidemment une question d'équilibre. Hein. Je ne dis pas qu'il faut quitter sa paroisse et ses groupes de prière pour aller uniquement s'engager dans le monde. Hein. Mais c'est trouver quand même cet équilibre de se dire à un moment donné, comment est-ce que je suis évidemment nourri par ma vie chrétienne quotidienne, par ma vie, ma pratique dominicale, par peut-être mon engagement dans un groupe de prière ou dans un groupe de réflexion chrétienne. Mais en même temps, comment est-ce que j'assume ma mission propre dans le monde qui peut passer par une mission politique ? Et il faut faire attention que l'Église ne devienne pas, voyez, une petite secte, hein, au fond, où on travaille finalement tous un peu entre nous, où on partage les mêmes références, mais où on ne se coltine pas non plus un travail compliqué de traduction de ces références auprès des autres, et puis peut-être aussi de recevoir des questions qui sont des bonnes questions qui nous permettent de bouger nous-mêmes.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Alors si on parle de l'engagement politique, c'est parce qu'on est toute cette semaine au cœur de la doctrine sociale de l'Église qui cherche à voir comment s'engager en quelque sorte. Et vous évoquez dans votre livre un terme qu'on n'entend plus beaucoup, les structures de péché.
Alors les structures de péché, c'est un terme qui a été introduit notamment en Amérique latine par des théologiens, mais qui a été repris par le pape Jean-Paul II dans les années 80, et qui consiste à dire, au fond, les structures sociales, les structures économiques dans lesquelles on est, elles peuvent nous pousser à faire le bien ou à faire le mal. C'est pas neutre de vivre dans une structure politique ou une structure économique donnée. On est conditionné par les structures sociales dans lesquelles on se trouve.
Donc là-dessus, on n'a pas de pouvoir d'action, en quelque sorte.
Alors Jean-Paul II insiste beaucoup là-dessus. Il dit, attention, il ne faut pas non plus mettre toute la faute sur la structure. On a toujours une petite marge de liberté, qui qu'on soit, dans quelle que soit la structure dans laquelle on vit. Mais en même temps, ces structures, elles nous forment.
Hein, mais donnez-nous un exemple.
Un exemple, on pourrait dire, un petit peu clair. Aujourd'hui, on va dire, on vit dans un monde où on utilise beaucoup de téléphones portables. Je suis obligé d'acquérir un téléphone portable pour vivre dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Les téléphones portables, ils sont fabriqués parfois dans des conditions qui sont pas toujours des conditions qui respectent la dignité des personnes qui les fabriquent. Je peux dire que c'est une forme de structure de péché, c'est-à-dire que je suis obligé d'acquérir un objet qui a été produit de façon dont je sais qu'elles ne sont pas tout à fait respectueuses. Et je vais essayer de faire changer cette réalité, mais en même temps, j'y suis quelque part lié d'une manière.
On est embarqué.
J'y suis embarqué et je peux pas faire autrement.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors,
nous dit la doctrine sociale de l'Église ?
Il y a toute une gamme de possibles là-dedans, mais d'abord, elle nous aide à dire, je suis obligé de constater que c'est comme ça et que je ne peux pas faire autrement.
On identifie déjà.
On identifie, on nomme et on se dit, il y a des marges de manœuvre, mais il y a aussi une nécessité de ne pas non plus rêver à se dire, voilà, je pourrais aller revivre dans une caverne et faire en sorte que je sois complètement à l'extérieur de ce monde qui m'embarque avec ces technologies. Non, il y a quelque chose dans lequel je suis embarqué et je vais jouer avec cette réalité au sens positif du terme. Par exemple, ça peut être faire pression sur les fabricants de téléphones. Ça peut être aller voir mon député et lui dire comment est-ce qu'on pourrait, du point de vue législatif, faire évoluer les choses. Ça peut être adhérer à une association de consommateurs.
Mais garder son portable un peu plus longtemps.
Garder son portable un peu plus longtemps. Peut-être choisir certaines marques au détriment d'autres. Voilà, donc avoir une réflexion. Mais la structure de péché, elle consiste à ne pas être dans le côté, vous voyez, romantique qui consisterait à dire « Ah ben non, je n'en achète pas parce que c'est mal et du coup, je veux pas me salir les mains », ni dans l'attitude qui consisterait à dire « Bah, de toute façon, tout le monde fait comme ça et je dois m'accommoder à ce que fait tout le monde ».
Au fond, ce qui ressort de votre livre, frère Jacques-Benoît Rauscher, c'est la responsabilité qui est donnée à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et évidemment, dans cette période qui est cruciale, celle du vote et celle des élections législatives, à quoi vous appelez les auditeurs ?
Alors déjà, je crois à ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais à se réjouir. Je ne parle pas de se réjouir de la, du fait qu'on aille voter parce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec l'idée de la dissolution. Mais avec le fait même de se rendre compte que d'aller voter, c'est quand même un cadeau énorme qui est donné à nos concitoyens et un cadeau dont les chrétiens doivent savoir se réjouir. Je vous le dis aussi franchement, moi je vis avec des frères qui viennent dans ma communauté dominicaine de contextes extrêmement différents, et de vivre en démocratie, c'est quand même une grande chance qu'on ne mesure plus toujours, je trouve, parce qu'on y est trop habitué en France. Donc aller voter, c'est toujours une fête, même si on n'était pas d'accord avec la dissolution, c'est pas la question. Mais aller voter, c'est quelque chose de très positif. Donc premier élément, se réjouir parce qu'on a part au débat démocratique. Et ensuite se dire effectivement que la manière dont je vais voter implique ma vie chrétienne, oui c'est vrai. Et donc, il faut revenir sur les principes et sur l'analyse qu'on fait aujourd'hui de la situation de notre pays. Pas seulement les principes et l'analyse de la situation de notre pays. Quelqu'un disait, un vieux prêtre que je connaissais avait cette image que je trouve belle, il disait « d'un côté l'évangile, de l'autre le journal ». Et c'est comme ça qu'un chrétien, il vote. Avec la doctrine sociale, je dirais, inspirée de l'évangile, et avec le journal, c'est-à-dire avec la manière dont il perçoit aussi le pouls du pays dans lequel il est.
Vous écoutant, on entend aussi qu'un programme, ça s'étudie, ça se regarde. C'est ça la responsabilité aussi, peut-être, du chrétien, avec l'évangile à côté, mais en tout cas de s'y plonger dans les programmes.
Ah oui, tout à fait.
C'est une exigence.
C'est une exigence, et ça n'a rien à voir avec le niveau d'études qu'on a pu faire ou quoi que ce soit. Je crois que chacun, à notre niveau, on a une vraie exigence à avoir de prendre au sérieux la parole de l'autre. Même s'il n'appartient peut-être pas à un parti pour lequel j'ai envie de voter, mais prendre le temps d'écouter ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que je lui donnerai mon suffrage, mais au moins de me laisser atteindre par la parole d'un candidat, par exemple, pour essayer de voir comment je me positionne par rapport à lui.
Prendre au sérieux les élections. Merci beaucoup, frère Benoît Jacques Rauscher. Vous êtes l'auteur du livre « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter ». C'est pertinent, c'est aux éditions du CERF. Et c'est une bonne lecture pour cette semaine. Merci à vous.
Merci beaucoup.